alors surnaturel. J'en suis sûr, même si les dispositions et la fatigue, parce que souvent la fatigue de l'année se fait sentir, il faut qu'on a un tout petit peu dételé. Je ne dis pas le vieux cheval, parce que pour vous, il est encore un jeune poulain. Mais quand même un peu. J'ai bien, vous avez encore des sessions maintenant. C'est bien. Il faut essayer de faire que ce temps, entre parenthèses de vacances, et je dis bien entre parenthèses de vacances, puisqu'il n'y a pas de vacances pour la vie religieuse, dites-vous bien cela. C'est tout simplement un changement d'occupation, quelquefois un changement de lieu, et un changement de travail, et un équilibre un peu différent au point de vue horaire. Mais c'est pas des vacances. Je crois que c'est quand même très important de se dire ça. Parce que si c'était des vacances, on sait très bien. Il suffit de voir les gens qui partent en vacances et puis rappelez-vous ce qui se passait il n'y a pas si longtemps que ça pour vous. Alors, ça revient très vite, vous savez, ce climat de vacances. Des étudiants en vacances, des étudiants sages en vacances, des étudiants qui ont besoin de se remuer en vacances, ce ne sont pas des vacances. Parce que autrement, on ne serait pas totalement donné. Si la vie religieuse réclame le don total de toute notre vie, et c'est comme cela que saint Thomas le prend à la suite des pères de l'Église, saint Grégoire entre autres, en voyant que tout est donné, tout est donné. Et on est un champ qui ne nous appartient plus. Notre âme et notre corps ne nous appartiennent plus. Je sais que c'est pas commode et puis que de temps en temps il y a des revendications. Des revendications qui peuvent être d'autant plus fortes que on n'avait pas très bien compris au point de départ. Mais c'est souvent ce que fait le Saint-Esprit. Vous savez bien, il a mis des œillères, sol de Tarse. Puis je vous ai raconté plus d'une fois cette histoire de tomber l'orgé. Il a mis des œillères pour que tomber l'orgé puisse entrer à la trappe, étant persuadé qu'à la trappe il trouverait une communauté contemplative. Et il s'était fait une idée de la contemplation. On se fait une idée de la contemplation avant d'entrer dans la contemplation et dans la vie contemplative. On a une idéologie de la contemplation, remarquez que c'est la plus belle des idéologies. Mais c'est quand même une idéologie, l'idéologie de la contemplation. L'idéologie d'une vie contemplative, d'une vie paisible, calme, bien ordonnée, avec le travail intellectuel qui vient là, permet d'avoir des intuitions merveilleuses, des grandes synthèses, on plane, c'est merveilleux. Voilà ce que c'est. L'idéologie de la contemplation et de la vie contemplative. Vous vous souvenez, celui qui était venu nous trouver, du moins certains d'entre vous peuvent se souvenir, celui qui était venu nous trouver à Fribourg. J'ai entendu dire que vous aviez une vie intellectuelle très intense dans la communauté Saint-Jean. Je suis polytechnicien. Je suis docteur, je ne sais plus en quoi. Puis il y avait toute une candidature. Alors, je crois que c'est chez vous que je dois entrer pour pouvoir faire des études vraiment intellectuelles, philosophiques et théologiques. Alors j'ai dit, si c'est pour ça que vous entrez, vous vous trompez de porte. Alors il m'a regardé. Il dit, oui, on aime beaucoup la philosophie et la théologie, mais c'est pas ce qu'il y a de premier chez nous. C'est une école vers la sainteté. Oh, mais qu'est-ce que c'est que la sainteté? Ah oui, mais la sainteté, c'est suivre Jésus, suivre l'agneau partout où il va. C'est ça la sainteté. Et que Jésus nous demande de lui donner notre intelligence, comme il demande de lui donner notre cœur et notre sensibilité. Ça, oui, tout à fait d'accord. Jésus aime mieux qu'on soit intelligent que bête. Surtout si on est capable d'être intelligent. Parce que ceux qui ne sont pas capables d'être intelligents, ça n'a pas grande importance. Mais ceux qui sont capables d'être intelligents et qui ne font pas l'effort de l'être, c'est pas bien. Dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui. Dites-vous bien ça. On en apprend tout le temps dans ce domaine-là. Là-bas, à Laredo, j'ai rencontré le père O'Connor. Je suis pas charismatique. Je n'ai pas de charisme. Alors, je ne sais pas, les charismatiques, on va juger les charismatiques. Pour vous montrer qu'à ce moment-là, à cette époque-là, les mecs ne voulaient pas du tout se mouiller. Ils étaient très en dehors. Le père O'Connor, que j'ai retrouvé ici, je lui ai demandé comment ça va. Me dire, j'en ai encore 5 ans. Pourquoi vous n'avez pas l'air d'être très heureux? Ah non, c'est très dur. C'est très dur. Vous savez ce que c'était que Notre-Dame avant? Et l'influence de Notre-Dame? Eh bien, depuis 5 ans, ça a complètement changé. En philosophie, plus rien. Et en théologie, on prend la théologie de la contestation. Ça fait bien, c'est intelligent de s'opposer à Rome. Parce que en s'opposant à Rome, on manifeste qu'on est libre et intelligent. Tandis que si on accepte ce que dit Rome, ça prouve qu'au fond, on est encore dans la bêtise catholique qui obéit tout simplement. Il m'a dit, dans la faculté de théologie, les deux tiers sont dans ce sens-là. Et alors, lui, on le tolère, puisqu'on ne peut pas l'évacuer. On a quand même des mœurs correctes entre professeurs. Mais on ne lui confie aucun cours important. Envoyer des jeunes étudiants américains, j'en rencontre. pas commode. Mais vous pouvez peut-être les envoyer à Paris. Parce que on va commencer cette année une reprise au plan philosophie. Comme il connaissait bien Monsieur de Montléon, il m'a dit, mais c'est la reprise de ce que vous aviez commencé avec Monsieur de Montléon. J'ai dit, oui, exactement. Il avait cessé. Oh, mais comme je suis content. Comme je suis content de savoir ça. C'est, j'en suis enchanté. Je le dirai autour de moi parce que c'est très heureux que la communauté Saint-Jean puisse avoir une antenne sur Paris au point de vue philosophique. J'ai un courrier immédiatement. Ces deux antennes, si vous voulez, c'est vrai qu'ils sont très très seuls, ceux qui veulent rester fidèles à un enseignement philosophique sain. Un véritable enseignement philosophique de recherche de la vérité. Ils sont très seuls. Et en Amérique, on le sent, une pauvreté dans ce domaine-là, mais en même temps, un très grand désir. J'ai beaucoup de jeunes, c'est ce que me disait O'Connor, il disait, la théologie commence à dégringoler au moment où beaucoup de jeunes cherchent et voudraient bien s'ils trouvaient quelque chose. Et s'ils pouvaient trouver quelque chose, immédiatement, ils accrocheraient. Oui, je crois que c'est très important de se rappeler ça, que là aussi, il y a une place importante à tenir. On ne peut pas demander ça à l'orado, hein, c'est impossible. On enverrait 5 philosophes là-bas, immédiatement, ils feraient école et l'évêque soutiendrait. Mais il faudrait qu'il soit au désert en acceptant 45 degrés de chaleur hein, pour l'été. C'est pas commode, ça. Ça fait quand même des conditions particulières. Alors, le temps de vacances doit être un temps très profitable pour chacun d'entre nous. Pour certains, c'est un peu plus d'apostolat. C'est bien. Parce que je crois que très vite, nous devons avoir ce sens. Ça nous aide énormément pour nos études théologiques. Parce qu'on s'aperçoit, quand on est en face de jeunes qui cherchent, qu'on ne sait pas grand-chose. Pour leur répondre en toute vérité et selon les exigences de leur intelligence, on est bien obligé à ce moment-là de faire des actes d'humilité. Parce qu'on ne peut pas réciter une leçon. On ne peut pas réciter du tout cuit. Ils s'en aperçoivent tout de suite. Parce qu'ils vous posent des questions. Et quand ils vous posent des questions, ils vous tournent au tournant. Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus ou est-ce que vous récitez une leçon? Est-ce que c'est de l'appris ou est-ce que c'est du vécu? Et il faut que ce soit du vécu. Il y a un moment où on pouvait se dire, on transmet la doctrine de l'Église. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Puisque la doctrine de l'Église, nous devons la défendre. Pouvoir défendre les positions actuelles de l'Église. Au point de vue bioéthique. Au point de vue de la fécondation artificielle. Pouvoir vraiment défendre ces positions. Et montrer le bien fondé de ces décisions de l'Église, mais ça exige une réflexion profonde et de tout le vivant et de tout l'homme. Et les rapports de la biologie, les rapports de l'éthique, les rapports du sacré, du religieux, le rapport de la foi. Être capable de défendre notre foi et ne pas trop vite dire hein, écoutez, moi j'obéis, c'est tout. On n'a pas le droit de dire ça. Du moins, nous n'avons pas le droit de dire ça. Nous n'avons pas le droit de dire nous obéissons seulement. Nous devons pouvoir justifier notre foi devant des jeunes qui en ont besoin de sentir cela. Sentir que être croyant, ce n'est pas être un imbécile. Être croyant, ce n'est pas identique à obéir aveuglément. Être croyant, c'est recevoir une lumière supérieure. et donc être plus intelligent. À ce point de vue-là, le contact qu'on peut avoir au point de vue apostolique avec les jeunes, c'est merveilleux. Ils ont soif de ça. Et encore une fois, ils sentent tout de suite si c'est quelque chose de vrai. Si on y a réfléchi, et si on le vit, si pour nous, ce n'est pas indifférent. Donc, le contact apostolique, pour nous, doivent aviver notre soif de recherche de théologiens. Il ne faut jamais oublier ça. Par le temps des vacances, c'est excellent pour ceux qui peuvent avoir ce contact. Les autres, qui en profitent pour avoir peut-être des moments de travail plus intenses au point de vue personnel. Pendant l'année scolaire, à cause des charges, à cause du poids de la vie commune, on n'a pas beaucoup, je sais, de travail personnel. À cause de l'intensité de cours qu'ils font. Et croyez bien que c'est pas pour le bon plaisir des professeurs, c'est parce que Rome le réclame. Et on est en dessous de ce qu'il voudrait faire. Alors, il faut profiter pendant le temps des vacances pour un travail personnel. Et il faut découvrir chacun d'entre nous un peu sa méthode de travail. Vous voyez, quand il s'agit d'un travail historique, on peut donner une méthode. Le père Mandonné, à la fin de sa vie, a écrit une méthodologie historique qui est merveilleuse, extraordinaire, dont j'ai reçu l'herméneutique de la bouche directe du père Mandonné. C'était quelque chose d'extraordinaire d'entendre le père Mandonné lui-même expliquer ce que c'était que la méthodologie historique. Bon, c'est très important quand il s'agit de la philosophie pratique ou spéculative. Je crois qu'il faut que chacun d'entre nous, nous découvrions notre méthode. Parce que la philosophie épouse tellement la forme de notre intelligence. Vous voyez, les méthodes, c'est de l'extérieur. Tandis que la philosophie, c'est un habitus. Et donc, c'est notre intelligence qui se décrase. Elle en a bien besoin. Et elle se rencrasse très vite. Très très vite. Petit exemple. Je vous ai dit, j'étais à Mexico et on m'avait averti que l'air est tellement pollué là-bas qu'il y a un brouillard constant et qu'une journée passée à Mexico, c'est comme si on avait fumé deux paquets de cigarettes. C'est un petit signe de l'encrassement intellectuel de notre esprit. La pollution intellectuelle. Et notre esprit est tout le temps encrassé comme ça, quand il ne fait pas attention. Si on ne reprend pas tout le temps, on s'encrasse très vite. C'est-à-dire, on descend le fleuve. On fait comme tout le monde. Et on ne sait plus ce que c'est que la vie d'intelligence. La philosophie n'a pas d'autre but que de redécouvrir la vie de notre intelligence. L'intelligence, c'est ce qu'il y a en nous de plus vital. Et redécouvrir cette vie, l'intelligence qui a soif de vérité. L'intelligence qui, chaque fois qu'elle peut avoir une nouvelle expérience, s'enrichit. Chaque fois qu'elle peut avoir contact avec une personne intelligente, s'enrichit. Elle est avide de ce dialogue. Elle est avide de redécouvrir chez des sages, chez des savants, chez des artistes, quelque chose. Et c'est vrai, chaque fois qu'on est auprès d'un artiste, qu'on découvre, la providence est toujours très bonne, et on a une place d'avion, on ne la choisit pas, c'est évident. Moi, j'étais là, évidemment, j'avais ma tenue visible, s'approche quelqu'un, vous, moi c'est B. Si je suis à côté de vous. Ah très bien, bonjour mon père. Je suis grand ami du père Kim. Père coréen, dominicain, peintre. Tiens, je les connais bien. Vous les connaissez bien. Ah, quelle joie. C'est ainsi que tu vois quelqu'un de 35 ans. Puis alors, il me dit, au bout de 2 minutes, je suis peintre. Je suis à San Francisco et à Paris. Ah, je dis, c'est bien. Alors, dites-moi un peu la différence de climat intellectuel. Point de vue artistique. Alors, je dis, ah, comme je suis heureux de repartir à Paris. Parce qu'au bout d'un certain temps, c'est dur, c'est dur. Et pourtant, j'ai des conditions de vie extraordinaires. Puis alors, au bout d'un certain temps, il me dit, écoutez, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Alors, il y a toute une quantité de photos, ces merveilleuses photos en couleur. Il y a un procédé actuel qui permet de projeter ça directement sur le paraît-il sur papier d'imprimerie. C'est une photo d'une merveille au point de vue précision. Alors il était tout heureux de présenter ce qu'il faisait et c'était très beau. Il disait qu'il glissait vers l'art abstrait. Il n'y avait rien du tout d'abstrait. C'était d'une finesse. Alors il m'a dit, je suis israélite. Je ne suis pas croyant. C'est-à-dire, je ne suis pas chrétien, mais je suis croyant. Et je juge qu'aujourd'hui, pour un artiste, s'il n'est pas croyant, c'est impossible qu'il soit un artiste. Parce qu'on vit un contexte tellement lourd, tellement matérialiste, que tout serait étouffé si on n'avait pas au-dedans de nous-mêmes spiritualité. Et c'est pour ça que je suis tellement content de retrouver Kim, mon ami Kim, et puis de pouvoir parler un peu tous ensemble. Je vous affirme, moi je pensais dormir un peu. Il lui avait pris une drogue pour l'empêcher de dormir. Mais c'est très bien. C'est marqué que c'était très important et très intéressant. C'était merveilleux. Il est tout près de Solesmes. Il a sa propriété de son père là-bas. Alors il m'a montré tout ce qu'il faisait pendant les vacances. La plaine de sablé. C'était merveilleux parce que c'était. On sentait qu'il aimait cela. Qu'il aimait ce qu'il faisait. Il y avait une spiritualité. Alors il m'a dit, est-ce que je peux venir pendant 8 jours dans un couvent? Parce que j'ai besoin d'un couvent, vous comprenez, nous on en a terriblement besoin de ça. Vous savez pas ce que vous avez, vous. Un milieu spirituel. Ça ne se trouve plus. Alors je dis, venez à Rimont. N'hésitez pas de venir 8 jours à Rimont. Je dis, même si je suis un païen, même si je suis un israélite, ça n'a aucune espèce d'importance. Au contraire, on fera d'autant plus attention à vous. Ah, tant mieux. Sûrement, j'en suis sûr. Parce que on sentait qu'il cherche des lieux spirituels. Il sent ce besoin. Il sent cette soif de trouver des. Pouvoir rencontrer des gens avec qui on parle. C'était beau. C'était touchant de voir ça. Parce que c'est toujours important de voir cette espèce d'appel. Bien, je crois que, vous voyez, c'est ce qui me semble tellement important. Je vais vous raconter un tout petit peu matériellement ce qui se passait là-bas. Pour nos pères, on sent que si on a soif d'une vie contemplative, qu'on s'adonne vraiment à des études sérieuses, à se décrasser l'intelligence au plan philosophique, recherche de la vérité, recherche de l'homme, une recherche théologique sérieuse. Bien, je vous affirme que c'est cela que le monde attend aujourd'hui, mais plus que tout le reste. Il y a une soif, mais extraordinaire, et à tous les niveaux, les jeunes, les autres. Je vous ai parlé de ce juge fédéral avec Je suis juge fédéral, ce qui me manque, c'est la philosophie, parce que je suis constamment devant des cas où je me pose la question jusqu'où l'action politique peut-elle aller? Est-ce que l'action politique peut dire ceci est conforme à l'homme ou ceci n'est pas conforme à l'homme? Qu'est-ce qui permettra de dire ça? Entre croyants, oui, nous avons les commandements de Dieu, mais quand on est en face de quelqu'un qui ne croit plus, qu'est-ce que je peux dire? Et là, je me sens très bien qu'il y a un manque à la philosophie. Et à ça, un homme qui a une situation importante, vous savez bien, ils sont nommés directement par le président, hein, et ils sont. Il m'a dit, dans le Texas, il est partout chez lui, comme juge fédéral, il peut s'établir n'importe où, il est partout chez lui, et il dépend directement du président, avec un souci de maintenir et d'essayer de maintenir le droit au point de vue humain, devant tous les problèmes d'aujourd'hui, tous les problèmes sont venus, vous voyez, et cet homme s'ouvre énormément, parce qu'il voit que c'est ses enfants, ses fils, ses filles, ses filles commencent à glisser. Il dit, je ne sais pas où les envoyer, je ne sais pas à qui les confier. Alors à ce moment-là, il a dit, oh, j'espère que votre couvent, votre prieuré pourra nous aider. Je crois que on sent partout, partout cette espèce de soif. Je sais très bien qu'il ne faut pas aller trop vite et que nous ne devons pas prendre les raisins verts parce que les dents des petits-fils en seraient agacées. Mais comprenons que ce que nous faisons ici, l'encouragement du pape, ce sont les religieux que j'attends pour la seconde évangélisation. Ça, faut souvent nous le rappeler. Le pape l'a dit pour nous, au Père Amen, pas à moi. Et après la visite du Père Amer à Saint-Jean-d'Arc, ce sont des religieux tels que ceux-là que j'attends pour la seconde évangélisation. Mais c'est important parce que si on prend, et on l'a tellement vite, l'attitude critique de vieux garçons, c'est effrayant, on stérilise. Et alors on enlève l'élan. Il n'y a rien qui stérilise plus ça. C'est évident qu'on n'est pas parfait. Et ce que nous devons essayer de chercher, c'est que c'est quelque chose de très grand. C'est très grand et c'est difficile dans le monde aujourd'hui. Mais ce que nous faisons pour l'Église aujourd'hui, c'est très grand, je vous l'affirme. Et ça, chaque fois, ça me frappe. Ce que le Père Jean-Philippe fait, ce que à l'orato ils font, ce que nous essayons de faire dans les maisons de formation, même si c'est très défectueux, même si c'est très pauvre, nous faisons quelque chose que le Saint-Père nous demande, la métaphysique. Il nous la demande parce qu'elle ne se fait plus nulle part. Le père O'Connor me l'a dit, elle ne se fait plus nulle part. L'éthique et la métaphysique. Et pour que l'éthique et la métaphysique soient bien faites, une réflexion sur l'activité artistique. Parce que c'est très important, ça. Et une réflexion sur l'activité artistique qui doit se faire en contact constant avec les artistes. Dans la mesure où, spirituellement, ils cherchent ce contact. Vous voyez, s'il n'y a pas de philosophie aujourd'hui, on ne pourra pas leur donner une herméneutique de la parole de Dieu. Je crois que si on est croyant, mais vraiment croyant, c'est-à-dire contemplatif, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc c'est vraiment le contemplatif qui est croyant. Le contemplatif, vous savez bien, personne d'entre nous n'oserait dire qu'il est forcément quelqu'un qui serait à mettre chez les traditionalistes. Le père Congard a dit ouvertement à Fribourg, quand on l'avait invité pour lui demander qui voyez-vous qui peut former à la théologie, le père Congard a dit je regrette, mais il n'y en a encore qu'un seul, c'est saint Thomas. Je regrette, il n'y en a pas d'autres. Et c'est vrai, il n'y en a qu'un seul qui peut former. C'est pour ça que l'Église maintient. Et je vous affirme, il faut beaucoup de courage pour l'Église pour maintenir ça, qu'elle maintient encore saint Thomas. Parce que les autres ne forment pas. Comme disait le bon père Ramirez, hein, les autres ne forment pas. Non, information, très bien. Mais il ne faut pas mettre l'information avant d'être formé. Il faut se former. Former, c'est difficile. Mais c'est les artisans qui savent ce que c'est que se former. On apprend lentement. Il faut lire tout saint Thomas. Alors, le lectorat, l'examen qu'on donnait à la fin de nos études, c'était sur tout saint Thomas. Pas seulement la somme. Les sentences, le contrat gentilesse, les commentaires scripturaires, c'était tout saint Thomas. J'ai lu pendant mes études théologiques tout saint Thomas. Et les commentaires de saint Thomas par rapport à Aristote. Alors, il y a beaucoup de choses qui tombent, mais on doit lire tout saint Thomas. Et j'avais lu en plus Jean de saint Thomas. Tout Jean de saint Thomas, il se fait comme ça. Dans un latin de cuisine merveilleux, mais c'était quand même quelque chose d'intéressant. Franc-comtois espagnol, donc de bonne race. Franc-comtois espagnol, parce qu'il était franc-comtois, à ce moment-là, ça appartenait à l'Espagne. Au moment de Descartes, même date, mais enseignant. Justement, à Salamanque. Je crois qu'il faut comprendre qu'on se forme d'abord. Je sais que c'est rude, parce que surtout pour certains esprits curieux qui voudraient tout de suite regarder ce que se disent les modernes. Mais faites confiance, je vous dis, quelqu'un comme Ramirez, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Ramirez m'a dit, j'ai lu tous les modernes. Je ne peux pas dire ça, moi. J'ai lu tous les modernes, ils ne m'ont rien appris. Mais Ramirez était comme un Bagnès. C'était quelqu'un qui avait une espèce de... Il m'a parlé de tel ou tel dominicain, je vous affirme. Lui-même, dominicain, pouvait le dire. Et il savait qu'il pouvait me le dire. Mais il les avait mis à leur place. En montrant que ce qu'il disait était contraire à saint Thomas. Et donc ça ne durerait pas. C'est vrai, on peut continuer saint Thomas, aller plus loin que saint Thomas, tout à fait d'accord, et saint Thomas en est très heureux. Mais pas contre. On peut laisser tomber certaines choses de saint Thomas, qui sont encore trop liées à la physique, au Decello d'Aristote. C'est bien évident. La science nous a apporté ce privilège de nous dépouiller de tout ça. C'est très difficile de dire quelque chose dans l'ordre des principes qui va plus loin. C'est pour ça que je dis ça, c'est pour vous donner un goût nouveau pendant le temps des vacances. Et là, il faut avoir ce désir d'entrer dans la mesure où on le peut. On a un peu plus de temps, mais travaillons, se mettons-nous à lire un peu. Lisons d'abord la somme, puisque c'est plus facile, puisque c'est traduit. Lisons le contrat gentilesse, peut-être pas à la suite, parce que c'est difficile à la suite, mais de temps en temps, revenons, lisons, si on a de la peine à lire saint Thomas, lisons tout ce qui est traduit, et puis après, essayons de lire saint Thomas, commentaire des sentences, le jeune saint Thomas. envoyer pendant le temps des vacances, si vous pouvez, via apostolique, un peu de travail personnel au point de vue théologique, au point de vue de saint Thomas, au point de vue de la philosophie. Et puis surtout, alors ça, surtout, le point de vue de la prière. On a besoin, mais c'est absolument nécessaire, de nous enfoncer dans la prière et de comprendre que ce n'est jamais une perte de temps que de passer du temps auprès du tabernacle. Exactement comme le paysan du Crudence. Je la vise, il m'avise. Pas autre chose. Regardez. Être présent. Même si c'est très sec, ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune espèce d'importance. On brûle ce temps pour le Seigneur. Même si on regarde sa montre tous les 10 minutes, ça n'a pas d'importance. Le Seigneur est dans l'éternité, il ne regarde pas la montre. Donc, il ne regarde que le cœur et les intentions de notre cœur. De temps en temps, des petites distractions, il le sait bien. Vous savez, c'est comme l'enfant quand il y a un oiseau qui chante. Il regarde. Nous, c'est notre monde, l'oiseau qui chante. Mais c'est... Oui, parce que quelquefois c'est pénible, alors si, hein, faut tenir bon. Oui, il faut tenir bon. Et c'est quelquefois les meilleures oraisons. Il faut tenir bon. Sur un champ de bataille, mais c'est pas comment. Ça n'a pas d'importance. Les résultats, il n'y a pas de résultat. Celui qui cherche un résultat dans l'oraison, ça prouve qu'il est à côté, il est encore dans la méditation. Dans la méditation, très bien. Et lectio divina pendant le temps des vacances, si c'est possible. C'est bon, la lectio divina, apprendre à aimer un peu l'écriture, mais surtout l'oraison et la soif de contemplation. Et si c'est dans l'aridité, c'est encore plus agréable, Jésus. Dites-le bien, dites-le vous bien, c'est encore plus agréable, Jésus, que si vous aviez une oraison pleine locution intérieure merveilleuse et que vous étiez obligé de prendre votre carnet pour les inscrire. Semble à toutes les locutions intérieures que j'ai reçues pendant cette oraison. Parce que les locutions intérieures, c'est pas le mystère, que voulez-vous. Tandis que dans l'aridité, vous êtes face au mystère. Et donc c'est plus. Ça va plus loin. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Sans avoir éprouvé cette présence et cet amour de Dieu, et qui demeure dans cette aridité. Il faut tenir bon. Oui, je crois ça tellement indispensable, si nous voulons être fidèles à notre engagement, si nous voulons répondre à l'appel du pape actuel, à l'appel de beaucoup d'évêques actuels. Comment il y en avoir pas mal hein, qui réclament et qui supplient qu'on vienne le plus vite possible. Si on veut répondre à cela, je crois qu'il faut une très grande fidélité à l'horizon. Et c'est cette fidélité à l'horizon qui maintiendra cette soif de contemplation, qui maintiendra ce désir d'approfondir au point de vue théologique. S'il y a ça, la vie d'oraison, la soif de contemplation, maintient en nous une intelligence souple, une intelligence aimante, maintient en nous la perspicacité d'intelligence. Ce que saint Thomas reconnaît la qualité dominante de saint Jean et du haut du ciel, saint Thomas reconnaît que ce doit être la qualité dominante de la communauté Saint-Jean. La perspicacité de l'intelligence. On l'a tous. étonnante. C'est effrayant ce monde. Ils comprennent rien, ils s'écrasent les pieds sans s'en apercevoir. Ils se font mal, ils s'en aperçoivent même pas. Ils n'en regardent même plus le regard des gens. Ils ne savent plus regarder, ils ne savent plus être attentifs. Et c'est vrai ça. L'horizon, la soif de contemplation, nous rendant attentifs à la présence de Jésus, nous rend attentifs à la présence de nos frères. Et c'est cette attention, vous voyez, qui est la chose la plus importante dans la charité fraternelle. Être attentif à l'autre, savoir l'écouter, et comprendre qu'il a quelque chose à nous dire et quelque chose qui est important pour lui. Alors je crois, vous voyez, qu'il faut pendant ce temps de vacances ne pas perdre ce temps. C'est merveilleux ce temps qui nous est donné. Et s'il y a cette soif de contemplation, cette soif de doctrine, il y aura, j'en suis sûr, une charité fraternelle plus intelligente qui se développera, plus affinée. Et nous serons joyeux de nous retrouver. Nous serons joyeux. C'est bon de temps en temps se séparer pendant quelque temps pour être joyeux de se retrouver. Mais parce qu'on est tout le temps ensemble au bout d'un certain temps, c'est fait aussi pour ça, ce temps. C'est pour on brouille un peu les cartes, vous savez. On est à droite, à gauche. Ça se fait à peu près comme ça, il faut voir comment le prieur fait. Là, la chose, on secoue un peu. N'est-ce pas, lui ? Là, ça marche un peu. Dis pourquoi celui-là ? Ben, celui-là, il a. Je sais pas, la providence. La providence d'un milan, c'est merveilleux. Mais c'est vrai, moi j'y crois du reste, puisque on a choisi Matthias, on va dire au sort. Et nous avons fait ça. Et nous le faisons de temps en temps encore. Pour savoir ceux qui iront à Jérusalem ou pas à Jérusalem, quand on est devant des hésitations, tirons au sort après avoir prié la Vierge Marie. Beaucoup mieux. Comme ça, on est sûr que l'aspect subjectif est complètement dépassé par une objectivité qui s'impose. Je crois que c'est bon, voyez, aussi, pendant ce temps de vacances, où on peut brouiller un peu les cartes. Dans la charité fraternelle, mieux se connaître et souvent pouvoir discuter entre nous des sujets qui nous tiennent à cœur ou dans un travail intellectuel quand nous savons que ça ne fatigue pas trop notre frère ou quelque chose de plus important, nos problèmes affectifs. La recherche de ce que c'est que les passions, ce que représente la vraie psychologie. Je crois qu'on peut s'interroger beaucoup les uns les autres là-dessus, sans révéler des secrets extraordinaires, non. Essayer de comprendre un peu ces choses si difficiles, si opaques, et qui ne sont pas à être vues de diverses façons. Reprendre le traité des passions de saint Thomas pour notre monde d'aujourd'hui. On ne peut pas répéter saint Thomas, mais on peut reprendre le traité des passions. Ce serait tellement important qu'on ait peut-être plus de désir d'arriver à un certain travail en commun qui peut s'expliciter. Jusque maintenant, il n'y en a qu'un seul, vous savez bien. Le commentaire de saint Thomas sur saint Jean, c'est le fruit d'un certain travail qui se fait à plusieurs. J'aime bien que dans ce domaine-là, il faut des spécialistes pour que ça aille plus vite, mais c'est quand même des frères qui sont devenus spécialistes et que ça s'est fait à plusieurs. On puisse arriver, même pendant les vacances, à élaborer quelques petites plaquettes très simples présente pour les jeunes aujourd'hui le bonheur? Comment présenter ces aspects si importants du bonheur? L'angoisse. Plus délicat, plus difficile, mais c'est quand même très important. On arriverait, voyez, à réfléchir sur l'angoisse. Ce soit vraiment dans un appel de Jésus pour chacun.